Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosc, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un 10-10 avec l'UFC Que Choisir aujourd'hui. Nous sommes le quatrième vendredi du mois et tous les quatrièmes vendredis du mois, nous recevons notre partenaire UFC Que Choisir. Bonjour Claude Gobert.
Bonjour Maria, bonjour à tous.
Léonie est à la technique, elle va nous faire une super belle émission et nous allons commencer très fort avec un sujet qui préoccupe beaucoup de gens, c'est le problème du surendettement, Claude.
Oui, d'ailleurs les données sur le surendettement viennent d'être publiées par la Banque de France, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, et bon, un des résultats inquiétants, c'est que le nombre de dossiers de surendettement a augmenté par rapport à l'année précédente. Bon, certes, il est moins élevé qu'il y a 5 ou 6 ans, mais ça traduit effectivement un certain nombre de difficultés.
Un malaise financier pour de nombreux ménages.
Ouais, qui touche surtout les ménages, bien sûr, défavorisés. Ce qui est aussi un peu inquiétant, hein, c'est que la part des jeunes progresse dans ce type de dossier.
Probablement aussi celui des ménages où il n'y a
plus
personne âgée.
Les familles monoparentales, oui. Etc. Donc, tout ce qui, en fait, qu'est-ce qui favorise le surendettement ? C'est tout ce qui est accident de la vie, la perte d'emploi, je dirais la maladie, la séparation.
Le passage à la retraite. On gagne moins de sous quand on est à la retraite.
Exactement.
Et aussi, les femmes en particulier. Voilà. On retrouve toujours les mêmes victimes, j'allais dire, de notre société sur le plan économique et budgétaire. Alors, moi, j'avais une maman donc, d'une autre génération et d'une autre époque, qui, elle, faisait ses comptes très régulièrement. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, elle faisait ses comptes. J'ai gardé ce principe-là, parce que ça permet de savoir à peu près où on en est. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut récupérer, bien avant que le relevé de compte n'arrive, on peut récupérer ça sur Internet auprès de sa banque.
Absolument.
C'est très simple d'accéder au quotidien à ses comptes. Et puis, elle anticipait les charges. C'est-à-dire qu'il y avait des charges fixes, des charges qui ne changeaient pas, qui revenaient régulièrement. C'est toutes les charges électricité, gaz, eau, assurance, etc., etc. Qui là forme un bloc important à retirer pratiquement d'entrée pour savoir ce qui nous reste pour vivre, c'est-à-dire pour manger et éventuellement s'habiller. Et puis, j'ai aussi adopté ce principe, le principe de la mensualisation. Alors ça, je sais que vous n'êtes pas forcément tout à fait d'accord avec moi, mais faire mensualiser ses charges au moins d'électricité, etc., d'assurance, de façon à faire ce bloc, ce fameux bloc qui fait qu'après, on sait ce qui nous reste pour vivre.
Alors, effectivement, la mensualisation, ça peut être une bonne idée. Il faut faire attention. Je pense surtout effectivement à l'électricité ou au gaz ou au chauffage, quoi. C'est que le montant de la mensualisation soit calculé correctement. Pas sous-estimé, parce qu'un certain nombre de fournisseurs auraient tendance à vous la sous-estimer. Et puis alors là, la surprise, elle arrive, je dirais, une fois par an, au moment de la régularisation. Et c'est des sommes parfois conséquentes. Donc oui, mais attention à ne pas, je dirais, se laisser attraper par des mensualisations sous-estimées.
Et puis, un autre petit conseil qui n'existait pas à l'époque où maman faisait ses comptes très régulièrement, comme j'essaye de le faire, ce sont les fameuses cartes bleues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait des chèques, on avait conscience de ce qu'on dépensait, on écrivait la somme en lettres et en chiffres. Et là, aujourd'hui, on prend des tickets. D'ailleurs, souvent, on ne les prend pas et c'est
un
tort.
Quand on les prend,
oui. C'est un tort. Et c'est vrai que l'argent file plus vite parce qu'on met une carte, on a payé, c'est fini. Non, c'est pas fini, c'est que c'est débité après quand même.
Oui, on a eu d'ailleurs des problèmes avec des gens qui, en fait, étaient incapables de savoir l'origine des prélèvements qui apparaissaient sur leur compte. Donc, je dirais, c'est une recommandation à faire. Ça dépasse la question du surendettement. C'est une recommandation à faire à vos éditeurs, c'est qu'il faut régulièrement surveiller ses comptes, au moins une fois par semaine. C'est facile maintenant avec Internet et sur votre espace client de votre banque. Et il faut être capable d'identifier l'origine de la dépense.
Oui, donc, faire attention aux hackers, parce qu'on peut avoir des sommes qui sont retirées
exactement.
qu'on ait fait quoi que ce soit, ni chèque, ni carte bleue. Et ça, on s'en aperçoit tout de suite, et plus tôt on s'en aperçoit, mieux c'est.
Donc, s'il y a des prélèvements qui ne sont pas normaux, vous êtes à même de réagir. On a reçu à l'association des gens qui s'étaient fait prélever des dizaines de milliers d'euros par petite somme. sans se poser de questions parce qu'ils ne surveillaient pas leurs comptes.
Tout à fait.
Donc, et... surveillez vos comptes, gardez les tickets de carte bleue et vous êtes... Bon, ceci dit, ce n'est pas ça qui empêchera forcément le surendettement. Mais enfin, ça permet d'avoir déjà une meilleure conscience de ses dépenses. Et si vous commencez à ne plus pouvoir effectivement faire face à vos dépenses, je crois qu'il ne faut surtout pas...
Surtout pas attendre,
je dirais. Le surendettement, c'est pas forcément une honte, d'accord ? Parce que souvent, en fait, on attend, on va prendre des crédits à la consommation, et qu'est-ce qu'on constate dans les dossiers de surendettement ? En fait, que la part des crédits à la consommation est très, 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 très importante. Un piège pour les jeunes, c'est les microcrédits, d'accord ? Qui sont très faciles à obtenir sans problème, etc., pour avoir 100 ou 200 euros, avec des taux d'intérêt, en fait, qui sont parfois...
Quasiment usuriers.
Voilà, d'accord. Donc attention à ça. Et si vraiment vous êtes en difficulté, eh ben n'hésitez pas à déposer un dossier.
Alors rapidement, quand on sent qu'on coule, il faut s'arrêter tout de suite et aller voir une assistante sociale.
Voilà, il faut d'abord aller voir une assistante sociale parce que peut-être il y a des aides auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Et puis si vraiment il y a la difficulté, ben vous adressez à la Banque de France et vous déposez un dossier de surendettement. On peut d'ailleurs vous y aider puisqu'on est représenté à la commission de surendettement de la Banque de France. Et la Banque de France va prendre un certain nombre de mesures pour essayer de vous, comme on dit en jargon financier, pour que vous reveniez à meilleure fortune.
Alors, avant d'arriver à une procédure de surendettement, il y a quand même des possibilités, avant d'arriver vraiment à cette extrémité-là, mais qui parfois est parfaitement nécessaire et qui permet de rétablir la situation. On peut aller voir l'ADIL, qui est l'Association départementale
oui, pour le logement.
On peut aller voir certaines... Il y a des articles aussi qui
oui,
vous protègent.
Oui, il y a des aides pour le logement auxquelles vous avez peut-être droit. Pour les factures d'énergie, ben, vous pouvez... aussi il y a des aides comme par exemple le chèque énergie, un certain nombre de personnes qui ont droit en fait ne l'utilisent pas ou ne le demandent pas.
Mais ne le connaissent pas.
Ou le connaissent mal, voilà. Donc il y a un certain nombre d'aides, ça, si vous avez fait le tour de la question et si le problème subsiste, et bien à ce moment-là il faut passer effectivement à la phase dossier de surendettement.
Donc il faut monter un dossier.
Il faut monter un dossier, il faut le monter de bonne foi, et si votre dossier est recevable, eh bien, la commission de surendettement va prendre un certain nombre de mesures.
Alors, quand on dit de bonne foi, ça veut dire tout dire.
Oui, il faut tout dire.
Tout ce qu'on a comme rentrée d'argent.
Oui, tout ce qu'on a, le patrimoine, tout. Voilà. D'accord.
Et ce n'est pas parce que vous êtes propriétaire d'une maison que vous n'allez pas avoir droit au dossier de surendettement.
Absolument.
Et ça ne veut pas dire qu'on vendra votre maison.
Et ça ne veut pas dire qu'on vendra
donc
forcément...
Donc ne cachez pas si vous êtes propriétaire, ça ne sert à rien. Voilà. Donc le dépôt du dossier peut se faire au siège de la Banque de France à Montpellier.
Voilà.
Ou à l'antenne de Béziers, oui, ou encore à l'antenne de Sète.
Voilà, exactement.
Donc ça, il suffit de se renseigner, d'aller chercher sur Internet.
Oui, vous tapez sur endettement Banque de France et vous aurez... Et puis vous pouvez vous adresser à nous. Hein.
Voilà, c'est ce que
j'allais
dire.
Il y a aussi d'autres associations, comme je pense Crésus ou autres, etc., qui peuvent vous aider.
Crésus qui ne porte pas bien son nom dans le cas présent. Mais on peut aller à UFC, vous pouvez nous aider à monter un dossier
absolument.
De surendettement. Une fois que ce dossier est monté, il faut qu'il soit accepté.
Oui.
Donc là, c'est la Banque de France qui décide.
C'est la Banque de France qui décide en fonction d'un certain nombre de critères. S'il n'est pas accepté, ben c'est parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment bien rempli le dossier. Mais la procédure continue. Hein. Vous pouvez toujours continuer à remplir le dossier, etc. Et une fois qu'il est accepté, la banque va s'adresser à tous vos créanciers pour, je dirais, faire le point. Et,
médiation.
Oui, ça peut être une médiation, par exemple, en demandant aux créanciers d'étaler la dette ou de la réduire, etc. Enfin, ça, c'est fonction un petit peu de la nature de la dette. Et ensuite, en fait, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises. Il y a d'abord, je dirais, si c'est possible, ce qu'on appelle un plan de redressement, d'accord ?
Oui.
Donc, on définit un reste à vivre pour vous. Et ensuite...
Reste à vivre, c'est-à-dire ce dont vous avez besoin pour manger,
voilà,
vous habiller.
Oui, voilà, exactement, d'accord ?
C'est en charge.
Ça, de toute manière...
Une fois toutes les charges payées, c'est ce qui vous reste.
D'accord,
c'est ça, reste à vivre.
Et si vous l'arrivez, si votre dossier montre que, en fait, une fois le reste à vivre déduit, vous ne pouvez pas faire face à vos dettes, eh bien, il y a une discussion avec les créanciers pour les étaler, pour éventuellement en réduire, etc. cette phase de médiation, si elle aboutit, tant mieux. Si elle n'aboutit pas, la commission peut, à ce moment-là, prendre des mesures d'office, d'accord, oui. Et les imposer aux créanciers. Et puis, la dernière mesure, c'est en fait c'est la faillite, hein, c'est-à-dire c'est le rétablissement, le rétablissement personnel et l'effacement des dettes.
Oui, et ça, ça peut arriver.
Ça arrive, oui.
Ça arrive.
Ça arrive, d'accord.
Donc, surtout, faites vos comptes. Dès que vous sentez que vous plongez, que vous êtes en train de vous noyer,
oui.
Allez voir tout de suite une assistante sociale.
Allez vous faire aider, oui.
Et puis, première chose aussi à faire dans ces immédiatetés, si je puis dire, allez à UFC Que Choisir qui peut vous aider pour monter votre dossier sur endettement et éventuellement
oui.
le suivre avec vous.
Oui, oui, absolument.
Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie beaucoup. Ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles tout ça, mais en même temps, ça permet quand même de savoir
mais c'est qu'on n'est pas...
Voilà, c'est la réalité de beaucoup de gens. Et donc, ça
le
n'est
nombre
pas
de dossiers augmente. Hein.
On dit que plaie d'argent n'est pas mortelle, mais enfin bon, dans certaines fois, elle est quand même très inquiétante. Une première pause musicale et vous allez voir, elle correspond très très bien à ce dont nous venons de parler, Claude. À tout à l'heure. Nous revoilà avec Claude Gobert pour la suite donc de ce 10-10 qui est consacré au UFC Que Choisir, notre partenaire. Nous avons parlé du surendettement tout à l'heure, donc on rappelle bien, ça ne va pas, vous le dites tout de suite, vous ne plongez pas complètement, vous allez voir une assistante sociale et ensuite vous allez voir UFC Que Choisir qui vous orientera pour ce qu'il faut faire éventuellement pour un dossier de surendettement.
Exactement.
Si c'est nécessaire. Deuxième point qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'était les conseils syndicaux dans les logements sociaux. Alors déjà, vous allez nous expliquer ce que c'est.
Alors, il ne s'agit pas des conseils syndicaux. Chez les bailleurs sociaux, tous les 4 ans, il y a une élection des représentants des locataires. Ils peuvent se présenter des associations agréées, comme la nôtre, qui présentent une liste de locataires. La liste, d'ailleurs, doit être paritaire, un homme, une femme. Et pendant 4 ans, les personnes élues, donc ça c'est à la proportionnelle des voix obtenues par chaque liste, en fait vont servir en fait d'interlocuteurs et de relais entre les locataires qui ont un problème et puis le bailleur social. Donc ces élections vont avoir lieu...
Quand on dit un problème, c'est quoi ? C'est un problème financier ? Alors, c'est un problème...
C'est un problème, par exemple... un problème
dans un appartement,
un problème de nuisance, un problème d'entretien de l'immeuble, un problème lié aux charges...
En fait, toutes difficultés concernant le logement.
Voilà, toutes difficultés concernant, etc. Et, donc... Nous, on est représentants déjà des locataires dans deux bailleurs sociaux du département qui sont ACM Habitat et Hérault Logement. Et à ce titre, eh ben, on est régulièrement contacté par des locataires qui nous font part de leurs problèmes. Et dans la mesure où nous siégeons dans un certain nombre de structures de ces bailleurs sociaux, le conseil d'administration, la commission de concertation locative, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, la commission aussi qui attribue les logements et regarde si les personnes qui les occupent remplissent les conditions, etc. etc. D'accord, on sert de relais, on traite régulièrement comme ça des dizaines de dossiers. Donc ces élections ont lieu tous les 4 ans, elles vont avoir lieu à la fin fin novembre, décembre 2026. Et je crois que la première chose à dire, bien sûr, c'est de voter pour la liste de que choisir, mais c'est surtout de voter, d'accord ? Parce que malheureusement, on constate dans ce type d'élection que la proportion de votants n'est pas toujours très, 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 très élevée. Et pourtant,
il y a peut-être un peu de découragement des fois.
Oui,
c'est aussi le fait qu'on ne comprenne pas tout à fait l'utilité.
Voilà.
De ces conseils syndicaux.
Alors, je peux vous dire qu'au vu, je dirais, des dossiers qu'on a traités, qu'ils soient individuels ou collectifs, parce que des fois, c'est tout un immeuble, etc. Notre action est efficace. Il y a une relation, je dirais, de confiance entre nous et le bailleur social. Ça ne veut pas dire qu'on défend la position du bailleur social. Donc ça veut dire qu'on défend la position des locataires quand elle nous paraît raisonnable et défendable.
Ça veut dire que vous êtes en fait dans une médiation. En fait.
Voilà, c'est exactement. Ça.
Mais les locataires eux-mêmes directement ne peuvent pas être représentés dans ces conseils syndicaux.
Il n'y a pas de conseil syndical, d'accord, dans une résidence de bailleur social. Il y a pas vraiment il y a peut-être un conseil de résidence, etc., mais c'est pas un conseil syndical au sens d'une copropriété, d'accord. Alors, par contre, il y a la situation des résidences où il y a à la fois des logements sociaux et puis des logements, entre guillemets, normaux. Donc là, effectivement, il y a un conseil syndical, mais ne peut être au conseil syndical que le propriétaire. Donc, en fait, qui n'est pas locataire. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes
locataire... Qui ne subit pas au quotidien, par exemple, les inconvénients d'une mauvaise gestion. Ouais. Cela dit, je suppose qu'au moment de ces élections, donc ça va avoir lieu en novembre, tous les locataires... Et les propriétaires vont recevoir...
Tous les locataires reçoivent de la part... Alors, reçoivent, je dirais, de l'information de notre part, ou des différentes listes qui se présentent, comme pour, je dirais, à la limite, une campagne électorale.
Oui.
Mais aussi doivent recevoir un matériel de vote de la part de leur bailleur social, qui leur explique, je dirais, qui leur donne les documents correspondants à chaque liste candidat. C'est que c'est vraiment comme une élection classique.
Et ça peut se faire toujours sous formule papier. On n'est pas obligé d'avoir un ordinateur ou de voter par...
Non, ça peut. Les deux modes de vote existent.
Ok. Bon, mais ça, on en sait un petit peu plus. On en reparlera peut-être.
On en reparlera,
oui, parce que c'est
dirais,
en novembre, voilà, donc on vous prévient très tôt. Mais
Par contre, je voudrais juste dire une chose. C'est pas toujours facile de trouver des candidats locataires pour figurer sur les listes, d'accord ? Parce qu'on a toujours parfois peut-être peur de se faire mal voir de son bailleur social. Je crois que c'est pas du tout. Il n'y a aucun risque de ce côté-là, je dirais même au contraire. Et donc, si les auditeurs qui m'écoutent font partie soit de ACM Habitat, soit de Héro Logement, soit de FDI social, où nous allons aussi présenter une liste, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Nous les accueillerons avec plaisir sur nos listes et dans notre commission logement.
Alors, l'intérêt du FC Que Choisir, c'est effectivement la défense des consommateurs. Dans le cas présent, le consommateur, c'est le locataire.
Oui.
Et l'autre intérêt de UFC Que Choisir, c'est qu'elle a des juristes et des gens qui peuvent effectivement bien travailler sur les points de droit.
Oui, on a une expérience, disons, assez nourrie de ce côté-là.
Voilà. Bon, Claude, c'est très bien, donc ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour novembre, mais commencez à vous en préoccuper.
Oui, si les gens qui nous écoutent sont concernés et ont envie de se porter candidat, ils sont les bienvenus.
Alors, puisque vous parlez de candidats, dans quelques instants, on va parler de ce que vous proposez aux candidats élections municipales, partout en France, pas simplement à Montpellier, hein, c'est partout en France. Et ça, c'est une autre façon aussi de participer à la vie publique. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants, si vous le voulez bien, avec une petite pause musicale. Et moi, je vous propose d'écouter quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Nina Simone, mais je crois que c'est aussi une de vos chanteuses favorites, Claude.
Absolument.
Allez Léonie, c'est parti pour Nina Simone, merci.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes, ain't got no ticket, ain't got no water, ain't got no love,
Retour à l'antenne dans ce 10-10, aujourd'hui consacré à UFC Que Choisir, notre partenaire Claude Gobert, toujours fidèle au poste, Claude. Et nous avons parlé du surendettement, nous avons parlé des conseils syndicaux dans les logements sociaux. Et maintenant, nous allons parler des propositions municipales. Alors, ce n'est pas les propositions que les candidats font aux municipales, c'est les propositions QFC.
Absolument.
Fait auprès des candidats partout en France et quels que soient les candidats.
Partout en France et quels que soient les candidats, effectivement. D'ailleurs, on a écrit donc un certain nombre de listes candidates dans le département, à Montpellier, Castelnau, etc. D'accord, avec nos propositions. Et puis, on verra les réponses.
Alors, ces propositions sont intéressantes parce qu'effectivement, elles procèdent de constats que vous faites régulièrement. C'est-à-dire
oui.
que dans tous les problèmes qui vous sont amenés là, sur votre bureau à UFC, vous avez pu dégager un certain nombre de questions récurrentes et qui deviennent même obsédantes pour certains. Et ça, vous en faites la courroie de transmission auprès des candidats qui n'ont pas forcément un écho aussi précis du terrain que vous ne l'avez, vous, à UFC.
Absolument, sur un certain nombre de sujets. Alors, le plus gros, je dirais, en plus, bon, on est sur Montpellier, la métropole, donc la question numéro un, si je puis dire, sur lesquelles les municipalités ou les intercommunalités peuvent agir, c'est le problème du logement. D'accord. Donc, je n'ai pas besoin de rappeler la situation sur la métropole avec des milliers de personnes qui sont en attente d'un logement social. On en a parlé tout à l'heure. Donc, je dirais, notre demande, hein, c'est effectivement deux choses. C'est, premièrement, nous sommes tout à fait favorables à la procédure qui existe à Montpellier d'encadrement des loyers. elle pourrait être étendue à d'autres communes de la métropole où la situation est quasiment aussi tendue qu'à Montpellier. Donc ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure...
Alors, l'encadrement des loyers, ça veut dire que le loyer ne peut pas augmenter de façon aléatoire.
Non, voilà. Il
y a un pourcentage annuel.
Voilà. Et il ne peut pas dépasser aussi un certain montant, d'accord, qui est fondé sur des mesures qui sont faites par l'Observatoire des loyers qui est piloté justement par la DIL. Et à partir de là, chaque année, le préfet fixe, je dirais, un montant maximum, un montant minimum, etc. La procédure est un petit peu complexe, mais en tout cas, elle a montré effectivement un certain nombre de résultats, donc elle mérite d'être étendue.
Alors quand vous dites ADIL, c'est Association départementale d'information logement, et vous pouvez y aller. Prendre rendez-vous, c'est gratuit, il y a des juristes qui peuvent vous renseigner. Voilà. Donc retenez bien, ça fait partie aussi des associations qu'il faut connaître, parce qu'elles peuvent vous aider dans tout un tas de circonstances relatives au logement. Voilà.
Donc, un, l'encadrement des loyers. Deux, je dirais, la construction de logements. Et trois, le contrôle de tout ce qui, en fait, contribue à figer le marché du logement. Je pense en particulier aux locations touristiques,
oui,
Airbnb et compagnie, etc. D'accord ? Qui, en fait, retire du marché locatif un certain nombre... du marché locatif
annuel,
un certain nombre de logements. Donc, ça, c'est la première mesure. Il y a une deuxième mesure qui va peut-être vous surprendre et qui résulte d'une étude qu'on a faite au niveau national, une enquête, comme on fait régulièrement des enquêtes. En fait, ce qu'on demande, c'est que les municipalités mettent à disposition de leurs citoyens, des visiteurs, etc., des points d'eau, de l'eau potable accessible en ville facilement avec un robinet. Voilà. C'est assez surprenant de faire une proposition pareille, mais en fait, l'expérience montre que ces points d'eau sont de plus en plus rares. Résultat, si vous trouvez pas de l'eau dans la rue, potable bien sûr, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez acheter des petites bouteilles de plastique, etc. Et ça contribue, je dirais, à la pollution plastique. Et en plus, l'eau vous coûte 50 ou 60 fois plus cher que si vous aviez un robinet à disposition. Donc ça a eu tendance à disparaître. Donc voilà une mesure, je dirais, qui vraiment relève de la responsabilité des communes ou des intercommunalités et qui est facile à mettre en œuvre et qui peut avoir un effet très positif.
Surtout avec les chaleurs qui s'annoncent maintenant
Absolument. Je dirais, on lit des fois dans la presse des gens qui se plaignent d'avoir été demandé un verre d'eau à un café, de se le voir refuser, etc. S'ils avaient de l'eau accessible, je dirais, dans la rue facilement, ce serait très bien.
Je vais rajouter un autre point. Beaucoup de dames me comprendront. Des toilettes publiques plus nombreuses. Parce que fréquenter les bistrots uniquement pour aller boire un café pour pouvoir aller aux toilettes, c'est pas très agréable.
Ouais.
Les toilettes sont pas forcément beaucoup plus propres, d'ailleurs. Mais il faut à chaque fois payer un café pour pouvoir aller se soulager.
Exactement.
Alors que s'il y avait un peu plus de... Voilà, ça, je pense que c'est peut-être dans les tuyaux. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà.
Alors, donc, je peux évoquer d'autres mesures. Bon, par exemple,
oui.
L'une aussi...
On parlait de l'eau. La qualité de l'eau...
Alors, la qualité de l'eau, oui,
bien sûr. À la maison, déjà, c'est déjà pas mal.
La qualité de l'eau robinet. Donc, ça, c'est un sujet, effectivement, qui nous préoccupe beaucoup. On a d'ailleurs, vous pouvez trouver sur notre site national une carte interactive qui vous permet de connaître la qualité de l'eau au robinet. J'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui concerne les polluants éternels, etc. Donc en fait, qui dit qualité de l'eau dit préservation de la ressource. Avec tout ce que cela implique, en particulier donc, que les zones de captage soient préservées de toute pollution d'origine diverse, notamment tout ce qui est pesticides d'origine agricole. Ça veut dire aussi un entretien des réseaux, parce que la quantité d'eau qui est perdue est énorme, d'accord ? Et donc, là aussi, quand on avait fait une étude sur... au niveau national, que je regardais les chiffres départementaux. Bon, il y avait des communes qui étaient plus vertueuses que d'autres, mais la quantité d'eau qui est perdue chaque année, c'est quand même faramineux. D'accord ?
Oui, alors ça, c'est quelque chose, on ne le sait pas, mais quand on refait, par exemple, quand on fait la ligne 5, tiens, je pense à cet exemple-là,
oui.
Les réseaux sont refaits et resuivis. Oui. Le travail est fait pas simplement sur la ligne où passe le bus, mais de façade à façade, c'est ce qui nous avait été expliqué quand on avait fait cette émission spéciale sur la ligne 5. Et donc, tout est revu.
Oui.
Tout est revu. Et en particulier, la qualité des tuyaux, tout le plomb est éliminé, évidemment, quand il y en a. Et ensuite, le fait qu'ils perdent ou pas, qu'ils fuient ou pas.
Oui, oui, les travaux de la ligne 5 pour Montpellier, enfin pour la métropole, ça a été effectivement une bonne occasion de remettre en état une partie importante du réseau, justement, et de réduire les pertes.
Voilà, mais, on prend la ligne 5, mais c'est valable pour tous les trottoirs qui sont refaits dans toutes les villes de France. Voilà. À partir du moment où on commence à toucher le sous-sol, tout ça s'est remis en... Voilà.
Il y a quand même encore entre 10 et 15 % de l'eau qui est perdue.
Bien sûr. On parle d'eau, de boire, il faut aussi penser à l'alimentation, manger mieux.
Voilà.
Est-ce que les municipalités peuvent faire quelque chose à ça? Je ne sais pas.
Ce que nous demandons effectivement, c'est que la part d'alimentation bio dans l'alimentation publique, donc notamment dans les écoles, les crèches, etc., soit beaucoup plus conséquente, que ce soit l'occasion aussi de promouvoir une consommation locale, des circuits courts. Voilà. Donc, on parle des crèches. Ce que nous demandons aussi, c'est que le nombre de places en crèche soit augmenté. Il y a un certain nombre de difficultés dans des communes du département et que ces crèches soient publiques. Parce que malheureusement, nos études ont montré que du côté des crèches privées, il y avait un certain nombre de dérives qui étaient inquiétantes.
Et difficilement contrôlables, voilà, parce que crèches privées, donc, ce qui ne les empêche pas quand même de connaître des contrôles. Mais enfin bon, c'est compliqué.
Mais, donc je dirais des crèches publiques.
Okay.
Des places en crèche
publique. Mais ça, ce sont des problèmes chroniques de la société.
Oui, mais
trouver un logement, trouver une place en crèche, enfin, ça fait partie des grosses préoccupations des jeunes Français, qui sont de jeunes ménages avec des enfants, par exemple, et qui doivent trouver des logements parfois plus grands, qui ne trouvent pas. Enfin, c'est compliqué tout ça.
Oui, mais cette période électorale, c'est, je dirais, l'occasion aussi de mettre la pression sur les candidats, pour voir, je dirais, quels sont le. Alors, il y a des sujets qui sont toutefois plus consensuels, mais pour en revenir, par exemple, à l'encadrement des loyers, là, c'est clair que toutes les listes candidates ne sont pas favorables à ce genre de mesures.
D'accord. Donc là, je regardais des chiffres, justement, par rapport aux crèches. À Paris, il y a 52 places en crèche, en moyenne, pour 100 enfants.
Oui.
Alors qu'il y en a 10 dans le département de la Sarthe, pour 100 enfants.
Donc c'est il y a des inégalités territoriales qui sont non négligeables.
Maintenant, il y a peut-être des modes de garde comme les nounous qui sont plus développés dans des départements ruraux.
Peut-être, ceux qui ont assistantes maternelles, effectivement.
Les déchets, on jette beaucoup.
Ah, alors les déchets, oui. Alors, c'est un sujet qui est un peu chaud pour les élections à Grenoble. Pardon, à Montpellier, excusez-moi. Au nom de l'association, se prononcer sur l'histoire de la chaudière CSR, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Je crois que il faut continuer à tendre vers le zéro déchet, ce qui veut dire que des mesures soient prises, y compris en termes de personnel, pour favoriser le traitement des déchets, le recyclage.
Et donc le tri, c'est-à-dire que nous, on s'applique pour certains, pas tout le monde, mais on s'applique, nous, à trier dans les maisons. C'est pas toujours facile de faire du biodéchet, là, chez nous, dans les appartements, etc. Mais on s'applique, il y a beaucoup de gens qui font attention, qui vraiment séparent les déchets. Il ne faudrait pas que tout soit remis en même temps, ensemble.
Voilà, et puis bon, mais même, j'habite dans une résidence, quand je regarde le contenu des poubelles, je dirais qu'il y a quand même encore un certain nombre de progrès à faire, d'accord, de la part d'un certain nombre de résidents.
Mais ça commence là, quand on nous dit trier, ben c'est vrai que c'est nous qui consommons, c'est nous qui trions.
Oui, et trier, en fait, ça veut dire...
Mais après, il faudrait que le tri soit respecté.
Voilà, et trier, ça veut dire au bout d'un moment, effectivement, qu'un certain nombre de produits peuvent, je dirais, faire l'objet de recyclage, et quelque part, ça vaut voudra dire que la taxe sur les ordures ménagères que tous les propriétaires ou locataires payent chaque année, qui a tendance à augmenter, pourrait être réduite. Parce que si elle est aussi élevée, c'est aussi que le tri est insuffisant. Et qui dit tri insuffisant, dit recyclage insuffisant.
Oui, mais bon, en même temps, on ne peut pas imaginer qu'une taxe baisse. Enfin, c'est dans un
monde... Ben, pourquoi pas ?
Un peu dans un monde, pour moi, de bisounours, les taxes qui baissent, je ne connais pas.
Pourquoi pas ? D'accord.
Bon, de quoi pourrait-on parler encore avec ces... alors, favoriser... Alors, bon, ça, sur Montpellier, il nous reste une toute petite minute, mais favoriser la marche à pied, le vélo, éviter les pollutions sonores...
Oui, oui, voilà, je dirais rendre la ville plus... plus sécure pour les piétons. D'accord.
Mais là, il semblerait qu'on soit en bonne voie quand même.
Oui, mais enfin, en tant que piéton, des fois, quand je me promène en ville, j'ai quelques soucis avec, pour ne pas les citer, les deux roues. D'accord.
Les deux roues, les trottinettes, les
poulets. Voilà, donc je pense qu'il y a un partage de la voie publique.
Mais ça se fera probablement,
améliorer.
Avec quelques PV aussi.
Voilà, d'accord.
Une surveillance policière
peut-être quelques petites mesures répressives.
Tout à fait. Merci beaucoup, Claude. On arrive à la fin de cette émission.
Merci
on entend
vous.
Le générique qui est parti. Merci à Léonie qui a assuré cette séquence, ce 10-10. Et on vous retrouve donc le quatrième vendredi
Absolument.
Du mois de mars. Et on reviendra sur des sujets qui vous préoccupent et qui nous intéressent. Merci à tous. Bonne journée. Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Radio FM Plus.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.